Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler aujourd'hui, puisque c'est bientôt la date anniversaire, le 21 septembre, de l'explosion de l'usine Total à ZF à Toulouse, qui a fait d'énormes dégâts et qui a été, en termes d'événements industriels, l'événement le plus important qu'on a connu depuis l'après-guerre. Donc, pour discuter de cette situation et aussi des enseignements en tirer, j'ai le plaisir d'avoir dans le studio en face de moi Armand Cassé, qui était le secrétaire du comité d'entreprise de l'usine à cette époque. Bonjour Armand.
Bonjour AZF. Bonjour d'AZF.
Le bonjour d'AZF. Et donc, pour se rafraîchir la mémoire sur l'importance de l'événement, est-ce que tu peux nous dire le nombre de morts, de blessés et peut-être quelques illustrations au niveau des dégâts matériels?
Oui, bonjour. Alors, le coût global de l'accident a été évalué aux alentours d'1,5 milliard d'euros. Il y a eu 22 000 blessés apparemment, dont 18 000 reconnus par la Sécurité sociale. Et on peut aussi dire qu'il y a eu 31 décès, et 21 à l'interne et 10 en externe.
Donc on voit, et dégâts matériels au niveau de... On a parlé beaucoup de vitres qui ont volé en éclats, mais sur quelle distance? Est-ce qu'il y a eu des bâtiments publics de toucher pour illustrer un peu?
Oui, alors il y a eu une quarantaine d'écoles qui ont été touchées. Beaucoup ont été carrément saccagées avec des vitres, des portes... Au lycée Gallieni, par exemple, il y a un bout de fer qui est parti donc, suite à l'explosion, et qui a percuté un jeune homme qui était dans la cour et qui est décédé de cet accident. Après, on peut dire que sur les conséquences de l'explosion elle-même, on demandait, par exemple, lors de prévention, de calfeutrer, de fermer les vitres, etc., en cas de poussière. Mais les vitres ont été ce qui a été le plus accidenté. Ce sont des personnes qui ont reçu des vitres, des bouts de vitres, des bouts de voilà, et qui se sont, il y en a qui ont perdu un œil ou deux, ça a été terrible ce côté-là, voilà.
Donc des vitres qui ont volé en éclats à plusieurs kilomètres à la ronde.
Tout à fait, oui. Et par exemple, moi j'ai ma mère qui était pas loin du site, elle était à 1,5 km. Toutes les vitres de son appartement sont venues se figer sur les placos, sur les meubles. Ont même déchiré. Elle avait un canapé en cuir. Des bouts de verre ont déchiré même le cuir du sofa sur lequel elle était.
Donc une explosion qu'on peut qualifier de majeure. Donc ça, c'est pour situer un petit peu, pour se rafraîchir la mémoire. Et tout de suite, quelle va être l'attitude de la maison mère de Total? Est-ce qu'elle va reconnaître sa responsabilité dans l'accident, ou est-ce qu'elle va tout faire pour échapper finalement à cette responsabilité?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que dès le premier soir, elle reçoit... Dans un petit bâtiment qui était encore, dont il restait encore les murs sur l'usine, elle reçoit la personne qui a déposé la dernière benne. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise, d'après ce qu'on peut en juger par la suite, soupçonne donc l'origine de l'accident. Elle fera tout pour retarder l'enquête, d'abord en faisant limiter la zone du périmètre de flagrance sur la moitié de l'usine, alors que le produit qui est mis en cause par la suite par la justice, il vient du nord de l'usine, du sud de l'usine, je veux dire, et ce périmètre n'a pas été sauvegardé à l'état pendant les mois d'enquête, ce qui a permis à l'entreprise de retarder de plusieurs mois la découverte donc du mélange qui a eu lieu entre les produits nitratés et les produits chlorés.
Alors, pour bien saisir, c'est que Total avait tout compris, on peut le dire, dans les 24 heures sur l'origine de l'explosion, et qu'elle fera tout. Elle fera tout pour essayer de faire croire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, et en particulier ce que Armand vient d'expliquer, c'est que de chercher l'origine de l'explosion là où finalement les produits qui étaient en cause n'étaient pas stockés. Donc c'est une attitude immédiate là, de réaction, de vouloir cacher l'origine. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est une attitude ponctuelle, ou est-ce que au fil des années et des procès, on aura la même attitude de Total de nier l'origine industrielle de l'explosion?
Oui, c'est-à-dire que pendant toute la période où les juges travailleront, Total déploiera, proposera toute une panoplie d'origines, de scénarios dont les juges seront obligés de travailler dessus, sur l'origine d'une explosion ou d'un arc électrique venant de l'usine à côté, de problèmes électriques de la part de l'EDF, d'une arme électromagnétique qui aurait été utilisée par l'armée, d'hélicoptères qui survoleraient au moment de l'explosion l'usine. Donc il y a tout un tas de propositions qui ont été faites, dont les juges seront obligés d'examiner, et tous ces scénarios tomberont à l'eau et n'amèneront rien de concret.
Donc une attitude dans la durée pour nier l'origine industrielle, donc leur propre responsabilité dans l'explosion. Et si j'insiste sur ce point, et je pense en particulier à l'usine Lubrizol qui a pris feu quelques années plus tard, on a exactement la même stratégie, c'est nier ses responsabilités en tant qu'industriel. C'est pour ça que je voulais que Armand développe un petit peu, mais on va y revenir. Parce qu'il y a des complicités sur le plan médiatique, des grands journaux qui vont alimenter le fait que ce ne serait pas un accident industriel. On a des complicités sur le plan politique et même institutionnel pour dire que ce n'est pas un accident industriel. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces complicités qu'on va retrouver malheureusement à d'autres occasions? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les mettre sur la table.
Oui, alors on peut dire que, par exemple, des journaux nationaux qui ont pas une audience énorme, mais qui ont quand même une certaine audience, c'est Valeurs Actuelles qui voguera sur l'accident, pas sur l'accident, mais sur l'attentat, et dirigeront les enquêteurs sur des propositions tout à fait farfelu. Je vous ai dit tout à l'heure que elles avaient été développées par l'organisation de Total, mais aussi par les journaux qui proposaient des rats qui se seraient en décomposition, qui auraient alimenté donc une explosion, de terroristes sur l'usine qui auraient mis des détonateurs au milieu du nitrate, ce qui est véritablement impossible. Donc tout ça a été développé par plusieurs journaux, dont je ne vais pas en citer tous, mais vous avez même au début la Dépêche qui disait que c'était une usine poubelle. Donc vous voyez, ça a été alimenté vraiment d'une façon un peu vraiment pour détruire et pour salir toute la mémoire des gens qui travaillaient dedans. Et ça, c'est pas correct.
Voilà, donc des complicités, il y a le journal Paris Match, entre autres, le Figaro, et même des complicités qu'on n'attendait pas, comme Charlie Hebdo, par exemple, qui a alimenté la thèse de l'attentat pour dédouaner l'industriel. Avant d'aller plus loin, je vous propose une petite pause musicale à propos d'une chanson que vous connaissez tous, on peut le dire, sur Toulouse.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse. Un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Revois ton pavé, ô ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse.
Eh bien, nous revenons donc dans cette interview sur l'explosion de l'usine Total à ZF à cette date anniversaire du 21 septembre avec moi Armand Cassé qui était secrétaire du comité d'établissement de l'usine à l'époque. Alors, Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour pas qu'on découvre la vérité sur l'origine de cette explosion. Ça va durer des années et on constate, en fin de compte, avec le témoignage d'un scientifique qui a été sollicité par l'entreprise, que Total avait tout compris finalement depuis le début et qu'on nous a baladé. Quand on dit nous, c'est l'opinion et les juges pendant des années. Est-ce que c'est ça, Armand ?
Alors oui, ils ont. Donc il y a un universitaire de Poitiers qui a été sollicité par Total pour justement dès le mois d'octobre, c'est-à-dire de suite après le 21 septembre, de faire des essais sur le mélange du produit des nitrates avec des produits chlorés en milieu humide. Et donc comme c'était donc la détonation. Se fait donc avec ses essais et donc il prouve que c'est que ça peut exploser et donc Total fera tout pour cacher ces études qui avaient été réalisées donc à Poitiers par ce professeur. Comme le professeur voulait justement en faire une, comme on appelle ça, une déclaration au niveau national pour que toutes les entreprises prennent des précautions en cas de mélange de nitrates et des produits chlorés, et Total a refusé que ça soit fait. Donc, il a fallu attendre qu'une personne qui travaillait sur Gramma, puisque la police aussi faisait des essais, hein, la gendarmerie, il y a un centre de recherche à Gramma, et dans ce centre de recherche essayait de faire exploser ces deux produits, puisque il y avait eu un ingénieur de la sécurité sociale qui était venu de Bordeaux, et quand il s'est aperçu que dans cette usine on fabriquait des produits chlorés et du nitrate, il avait lui dans une piscine à Pessac, comme quoi le monde est, peut être c'est important d'avoir plusieurs points de vue, dans cette piscine. Donc, ils avaient une partie extérieure qui était gazonnée et ils stockaient les nitrates avec les produits chlorés. Et un jour, à milieu humide, l'explosion a eu lieu. Et donc, lui, quand il est revenu... c'était une expérience qu'il avait. Et quand il est venu à Toulouse et qu'il a vu ça, il a proposé cette piste-là. Et donc, c'est pour ça que la gendarmerie travaillait sur cette piste aussi. Quand ils se sont aperçus que ça pouvait exploser suite aux essais de Presle, parce qu'un étudiant qui avait été à Gramma était de Poitiers, et quand il était revenu à Poitiers, il s'est aperçu que son professeur donc, travaillait sur la même chose, et donc que ce professeur, à partir de ce moment-là, ça a été la possibilité par la gendarmerie de s'apercevoir et par les enquêteurs que l'explosion était possible, qu'ils ont vraiment mis l'accent sur l'explosion. Mais Total a tout fait pour cacher cette possibilité de mélange.
Voilà, c'est un petit peu à qui on a affaire. Ils avaient tout compris depuis le début, en tout cas très récemment, et pendant des années, ils ont baladé la population et les juges pour les emmener sur d'autres théories.
Et ils ont baladé aussi les employés de l'usine.
Oui, il ne faut pas l'oublier, puisque les employés de l'usine étaient déchirés sur l'origine de l'explosion. Certains disaient que ça pouvait pas être une origine industrielle, puisqu'ils se sentaient mis en culpabilité quelque part. Et ça a été extrêmement douloureux de ce point de vue-là. Alors, on en vient à la situation aujourd'hui, un peu plus de 20 ans après. Quels enseignements tu tires, toi, de ce drame ?
Oh ben moi, d'abord, c'est une expérience personnelle qui m'a beaucoup apporté, même si c'est dramatique. Hein. Et alors, ce qu'on peut dire au niveau national, c'est qu'il y avait eu des propositions pour que les CHS et la sécurité soient augmentées dans les sites industriels. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec le démantèlement plus ou moins du CHSCT avec les CSE. Tous ces acquis qu'il y avait après, puisqu'il y avait eu des propositions de loi au niveau de de l'État, toutes ces lois sont tombées à l'eau pratiquement, et même s'il reste encore quelques bribes de possibilités de la part de DCE de se porter partie civile lors d'accidents industriels, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de le faire, puisque les subventions, normalement, les entreprises devaient financer justement ces enquêtes et ces expertises. Et ces expertises, aujourd'hui, elles se font de moins en moins.
Donc, est-ce que tu dirais qu'au niveau du code de l'environnement, puisque c'est le code de l'environnement qui a en charge la question des risques industriels, est-ce que tu dirais qu'on ait les enseignements positifs? Tu as dit qu'il y a eu quelques mesures de prise après l'explosion, après il y a eu un recul, il y a eu des coups de ciseaux de données sérieux dans le code de l'environnement. Est-ce qu'on est mieux protégé aujourd'hui qu'à l'époque, c'est-à-dire en 2001?
Non, apparemment, comme tout a été fait pour minimiser justement les conséquences de ces prises, de ces décisions qui ont été votées par le gouvernement, aujourd'hui, elles sont toutes tombées à l'eau pratiquement, et le code de l'environnement a été réduit à sa plus stricte définition. Voilà. Hein.
Donc au nom du développement industriel mal nommé, puisqu'en fin de compte, c'est pas l'aider à se développer, puisque la loi de la jungle ne permet pas forcément de développer sur le long terme. En tout cas, puisqu'on peut avoir des gros pépins, on peut dire qu'aujourd'hui, le code de l'environnement est plus fragile dans ses dispositions, plus faible, qu'il ne l'était en 2001, c'est quand même fort, fort de café. Et c'est exactement le cas avec des mesures dites de simplification qui ont été prises, y compris sous la présidence Macron, c'est-à-dire récemment. Alors, on a parlé donc de cette explosion de l'usine, mais pour la région toulousaine, sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'activité industrielle, les conséquences, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de l'aviation sur Toulouse, mais les autres activités industrielles, qu'est-ce qu'elles sont devenues?
Alors, au niveau de la chimie sur Toulouse, il ne reste plus que 80 personnes qui travaillent donc dans ce qui reste dans quelques bâtiments de la SNPE, de la Poudrerie Nationale, puisque c'était l'origine, c'était ça, c'était la Société Nationale des Poudres et des Explosifs. Et aujourd'hui, donc, ces entreprises qui employaient à peu près 350 personnes pour la SNPE et pour Tolochimie à peu près 200 personnes, donc ça fait presque 500 personnes. Sanofi a complètement disparu, AZF avec 450 personnes, donc a complètement disparu. Toute la chimie a disparu de la ville de Toulouse. Et il faut savoir l'université s'appelait Paul Sabatier. Paul Sabatier avait été prix Nobel justement pour ses études sur le nitrate.
Oui, c'est quelque part c'est un curieux clin d'œil de l'histoire, on peut le dire comme ça, puisque Armand l'a pas dit, mais le nitrate d'ammonium, c'est quand même un produit qui est connu. On avait eu déjà des explosions majeures avec ce produit-là. Quand on fait n'importe quoi, on peut dire avec. C'est ce qui s'est passé. On ne l'a pas dit encore, mais ce problème de mélange avec ce qu'on a appelé des produits incompatibles, il est dû à quoi? Le professionnalisme des salariés de l'usine ou une désorganisation dans l'entreprise avec des divers salariés d'autres entreprises qui sont venues y travailler sans savoir ce qu'elles faisaient.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que ils ont voulu externaliser le traitement des déchets des différents ateliers. Et ils ont donné ça à une société sans se préoccuper de la formation de la personne qui allait manipuler tous ces produits. Donc, lui, ignorant les risques, il a fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire amener tous les déchets industriels des différents ateliers dans un silo qu'on pourrait appeler dépotoir. Mais seulement, ce n'était pas un dépotoir. C'était un bâtiment qui était réservé aux nitrates agricoles et non aux produits comme les restes, comme les déchets ou les non conformes des produits chlorés ou des nitrates industriels. Il faut savoir que dans le stockage de nitrates, qui était repris régulièrement et qui a été envoyé dans une autre usine pour fabriquer des engrais complexes. Il y a été mis des nitrates industriels qui, eux, servent d'explosifs dans les mines. Donc, normalement, ce nitrate industriel ne doit pas être stocké en vrac. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme il y a toujours des non-conformes dans les fabrications, en début et en fin de fabrication, et des poussières, donc tout ça a été récupéré et mis en même temps que les nitrates agricoles, ce qui a déjà sensibilisé le tas. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était chargée de récupérer les produits chlorés non-conformes, quand il les amenait où ? Dans le hangar à déchets, entre parenthèses, alors que lui, il n'avait aucune formation à ce niveau-là. Donc, quand on a mélangé les produits chlorés avec les nitrates, et donc, où il y avait encore 25% de nitrates industriels, ça n'a fait qu'augmenter l'explosion en puissance. Voilà l'origine de l'explosion, exactement comment ça s'est passé. Avec de l'humidité, le produit chloré, donc, se liquéfie, se mélange avec des nitrates et fabrique des NCL3. Voilà.
Voilà, donc en fait, c'est quelque part le procès de la sous-traitance en utilisant des entreprises diverses, donc dont ce n'est pas le métier, en l'occurrence, de travailler sur les produits chimiques. Et finalement, on a créé les conditions de l'explosion avec plusieurs entreprises sous-traitantes et en négligeant ces stockages de produits. Alors, des produits négligés dans leur stockage parce que c'était plus là où on faisait les sous, c'est pas là où il y avait la valeur ajoutée, la valeur marchande. Et donc, Total AZF s'est désintéressé complètement de cette zone de stockage qui était un peu abandonnée des hommes et des dieux.
Oui, c'est ça. C'était plus le cœur de métier, donc ils avaient donné toute la partie non conforme à des sociétés privées d'extérieur et sans s'assurer qu'ils avaient les formations pour manipuler des produits chimiques, parce que ça reste de la chimie.
Voilà, donc voilà pour l'origine. On aurait dû le dire au départ, mais bon, on a réussi à l'expliquer. Tout de même, alors, la question de la fin, est-ce qu'il y a un accident industriel majeur peut se reproduire si on a tiré vraiment les bons enseignements ou pas? C'est quand même la question du moment.
Oui, alors moi je pense que l'accident peut toujours se reproduire parce que nul n'est parfait dans ce monde malheureusement, mais enfin si on ne met pas toutes les garanties et si on ne s'assure pas que de toutes les précautions qu'il faut prendre, on peut facilement se laisser déborder par des situations. On peut parler de ça sur les fabrications ou même les centrales nucléaires dans lesquelles la sous-traitance intervient en force. Voilà.
Alors, dans les centrales nucléaires, aujourd'hui, c'est un excellent exemple. La majorité du personnel qui travaille est du personnel sous-traitant. Donc, on revient à l'explication que Armand a donnée tout à l'heure. Et est-ce qu'on a tiré les bons enseignements ? Non, on ne les a pas tirés, que ce soit dans les entreprises de la chimie ou du nucléaire, en voulant faire du dumping social, en voulant casser les statuts. On se retrouve avec des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas les formations, qui n'ont pas l'encadrement, qui n'ont pas l'organisation générale de l'entreprise pour éviter des accidents majeurs et non majeurs d'ailleurs, puisqu'on a aussi tous les jours des accidents qui ne devraient pas avoir lieu du fait de cette désorganisation délibérée. Voilà un petit peu pour le mot de la fin. Armand, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Non, moi je regrette que quand même que l'industrie en France soit en péril, qu'il y a de moins en moins d'entreprises industrielles et que mais les produits se fabriquent toujours à l'étranger, donc sans peut-être la sécurité qui serait souhaitable.
Voilà. Et donc pour avoir du nitrate d'ammonium, je vous déconseille d'aller sur aller du côté de Beyrouth et on voit ce que ça peut donner quand on fait n'importe quoi avec certains produits chimiques. Merci à Armand et à la semaine prochaine.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oh,